Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. Comment faire se rencontrer deux univers qui semblent a priori opposés, l'art et l'entreprise? Comment concilier management et art contemporain? Paris lancé et réussi par Marie Messina qui a fondé Perfect Lovers en 2009. C'est du team building nouvelle génération. Elle réinvente en quelque sorte les liens dans l'entreprise. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour Marie Messina.
Bonjour Doris.
Vous êtes à la tête de Perfect Lovers. Vous avez créé votre entreprise en 2009 avec la folle envie de faire entrer l'art dans l'entreprise et surtout de faire passer des messages. Alors déjà, première question Marie, pourquoi Perfect Lovers?
Alors, Perfect Lovers, c'est le nom d'une œuvre d'un artiste sud-africain qui s'appelle Félix González Torres. Cette œuvre représente deux horloges, imaginez deux horloges côte à côte, qui de loin semblent être sur la même longueur d'onde, exactement indiquant la même heure, mais quand on s'approche, on sent qu'il y a quelques différences. On n'est pas exactement sur la même longueur d'onde. Et le rôle de mon agence aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre sur la même longueur d'onde les managers et leurs collaborateurs, les dirigeants et leurs équipes. Donc c'est un
petit clin d'œil,
symbole. Hein. C'est un symbole, voilà.
Quoique lovers, c'est amour.
C'est amour et parce que ces deux horloges représentaient l'artiste. Et son amour.
Alors que faites-vous concrètement? Vous nous disiez mettre en relation, faire en sorte que tout se passe bien dans l'entreprise.
On a un
facile.
Facile. Nous, on a un rôle de facilitateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner des conseils aux managers et aux collaborateurs que l'on accompagne, mais on est là en tant que facilitateur. On crée un cadre pour que chacun puisse s'exprimer librement, pour que chacun trouve sa propre manière de s'organiser. Les équipes sont là pour inventer leur manière de travailler ensemble et elles sont là aussi pour lever les tensions qui peuvent exister dans l'entreprise. Quand on travaille ensemble au quotidien, des tensions se créent. Si on arrive à les lever, si on arrive à en parler à ce moment-là, le quotidien devient plus facile par la suite.
Alors, c'est du team building, c'est ça, Marie?
Alors, c'est du team building au sens où on travaille sur de la dynamique d'équipe. Ouais. C'est le collectif. On va utiliser la force de l'imaginaire du collectif, la force de la personnalité de chacun pour construire une équipe. Mmh. Donc oui, dans ce sens, on est sur du team building. En revanche, on n'est pas sur du divertissement et du loisir. L'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que chacun au quotidien ensuite se sente bien, ouais, bien dans ses baskets, bien dans sa peau et ait envie de se lever et d'aller travailler le matin. Donc l'objectif, c'est quand même que l'équipe soit mieux. Donc on travaille sur la qualité de vie des équipes, sur l'harmonie des relations sociales dans l'équipe, mieux pour aussi être plus efficace.
Et tout ça avec une base artistique, parce que le team building ça existe depuis des années, on connaît tous ces séminaires d'acrobranche, etc. ou autour de la cuisine. Vous, c'est votre terrain de jeu, c'est l'art.
Oui, c'est l'art, parce qu'en fait on trouve dans l'art et dans l'art contemporain en particulier, donc l'art contemporain, c'est l'art créé par des artistes qui aujourd'hui sont vivants et vivent dans le même monde que nous. Mmh. Donc rencontrent les mêmes problématiques que nous en termes de relations humaines, en termes de contexte environnemental, politique, social, économique. Ils ont le même univers que nous, ils le partagent. Donc c'est des artistes qui vont aider les équipes à s'exprimer parce que on va travailler sur la question du symbole. L'œuvre en soi va être un symbole à partir duquel on va pouvoir discuter. Et échanger à partir de cette œuvre sera beaucoup plus facile que d'échanger en frontal sur le sujet donné. C'est-à-dire que l'œuvre est comme on fait un détour. En fait, on fait un détour par cette œuvre.
C'est une porte, en fait.
C'est une porte d'entrée et ça permet de parler de soi avec plus de pudeur que si c'était en question directe sur soi. Là, on parle de l'œuvre, mais on parle aussi de soi.
De soi, d'accord. Alors, donnons un exemple dans une entreprise, on va dire, aéronautique, puisque nous dans la région toulousaine. je pense, je peux me tromper, bien sûr, mais que ce soit pas un cadre, j'allais dire, particulièrement artistique. On n'a pas forcément envie, j'allais dire, de dessiner dessiner ou de peindre toute la journée, n'est-ce pas, quand on monte des avions. Donc comment vous intervenez, comment vous faites?
C'est ça. Alors typiquement pour ce type d'entreprise, de grands groupes qui n'ont pas forcément de fibre artistique peu importe au final, parce que l'art et l'artiste à ce moment-là sont des comme une boîte à outils, un univers qu'on découvre, une discipline qu'on découvre. Et pour vous donner un exemple, il a été question récemment de penser la réorganisation d'une équipe de 100 personnes à partir de l'œuvre de Dali. Donc l'équipe entière de managers, 12 managers qui devaient repenser cette cette organisation, sont partis à Figueres, au musée Dali, et j'ai travaillé avec eux sur cette réorganisation, qui va faire quoi, comment, qu'est-ce que ça va coûter, et tout ça à partir des œuvres de Dali présentes au musée.
À partir des montres molles, par exemple, qu'est-ce que
alors, c'était pas ces œuvres qui avaient été choisies, mais c'était le portrait d'Abraham Lincoln, mais c'est vrai que en analysant les œuvres, en les observant, en échangeant autour de ces œuvres, ils ont pu clarifier la vision qu'ils avaient de la réorganisation. Et une fois que les 12 managers étaient en phase sur ce qu'on veut faire de cette équipe, comment on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie d'être en termes d'état d'esprit, en termes de structuration, en termes de relations entre les entités, etc. Tout ça était visible dans l'œuvre de façon symbolique pour eux. Donc ils s'étaient mis d'accord sur cette œuvre et ensuite il s'agissait de déployer le plan d'action qui convenait à la vision qu'ils avaient inventée
de façon concrète et opérationnelle. Alors, mais vous n'êtes pas thérapeute, vous n'êtes pas psy. Sur quoi vous vous appuyez justement pour les accompagner?
Alors, l'idée, c'est vraiment ce travail sur, en fait, rencontrer une œuvre, c'est rencontrer comme quelqu'un d'inconnu. Donc l'idée, c'est de travailler sur la manière dont les équipes rencontrent cet inconnu. Quelle attitude on a face à l'inconnu? Quelle attitude on a face à un univers qui nous est étranger? C'est de la même manière que quand on reçoit quelqu'un de nouveau dans l'entreprise. Donc tout ce travail autour de l'œuvre, finalement, est une métaphore de ce qu'on peut rencontrer en entreprise.
D'accord.
Donc c'est ça, on n'est pas du tout, comme vous dites, dans de la thérapie, mais on rencontre notre univers et on s'adapte à cet univers-là.
C'est ça, ça. Ouais.
Et parfois, on va jusqu'à co-créer une œuvre ensemble, ça veut dire qu'on s'approprie aussi le processus artistique de l'artiste. Parfois, on observe l'œuvre, comme je vous le disais pour le travail autour de Dali, mais parfois, on va jusqu'à co-créer une œuvre accompagné par l'artiste qui partage très généreusement son processus artistique et sa manière de penser, de travailler.
Parce que vous êtes accompagné par des artistes dans vos ateliers.
Régulièrement. Il y a des interventions que l'on réalise sans artiste, avec des méthodes qu'on a développées qui sont particulières aussi, mais dont on n'a pas besoin d'artiste. Ça dépend des problématiques que l'on nous soumet. Mais quand il y a un artiste, l'artiste est là. Dali était mort, mais il aurait été là sinon.
Alors, qui vous sollicite? Est-ce que ce sont les DRH, les ressources humaines?
C'est ça.
Donc ils identifient un problème. Pardon, je vous ai coupé. Ils identifient un problème et ils vous sollicitent.
C'est ça. Les DRH, les dirigeants ou des hauts managers, ils identifient une problématique, c'est ça, une préoccupation, une envie aussi, parce que parfois l'équipe fonctionne bien, mais on a envie de faire avancer quelque chose, et ils nous sollicitent, voilà. C'est vrai que les DRH sont nos interlocuteurs.
Donc vous avez une mission, vous avez un objectif, une obligation de résultat.
On a une obligation de moyens.
Déjà.
On a une obligation de moyens et en termes de résultats, nous on l'évalue le résultat parce que c'est important pour nous. On essaye d'évaluer les résultats. Pour nos clients, on essaye d'évaluer nos résultats aussi. Aujourd'hui, on a 95% de satisfaction client. Donc je veux dire qu'il y a zéro risque à réunir son équipe, à la faire se parler, à la faire émerger des idées, à la faire construire quelque chose ensemble. Aujourd'hui, il y a le risque, compte tenu du cadre qu'on propose et des méthodes qu'on propose, il est quasi nul. Donc le seul risque, c'est d'aller mieux au final.
Ouais,
voilà. Ouais. Donc oui, les DRH font appel à nous. Et tout se passe bien globalement dans nos groupes. Quoi.
Mais vous rendez des comptes. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, le salarié qui participe à vos ateliers peut à un moment ou à un autre se dire « je suis observé, que va-t-on penser de moi ?»
C'est ça. Alors, ça c'est tout notre travail, d'arriver en amont dans ce qu'on appelle le séminaire, le moment où, où toute l'équipe est réunie. En amont, il y a un travail préparatoire, en individuel, avec chaque personne, qui permet à chacun d'être à l'aise au moment venu. Parce qu'en fait, ce qui est très spécifique dans nos méthodes, c'est que notre objectif, c'est que chacun se sente à l'aise, que personne se sente ni évalué, ni jugé, ni piégé. Ça, c'est extrêmement important pour nous et c'est notre force, c'est notre valeur ajoutée aujourd'hui sur le marché, c'est que et les managers et les dirigeants jouent le jeu. C'est-à-dire qu'ils sont pas là. Alors bien sûr, ils sont présents, donc ils voient comment ça se passe. Mais on est là en toute transparence pour que chacun puisse se sentir bien, s'exprimer, travailler en toute confiance. Voilà. Et que rien ne se retourne contre eux. Au final.
Ça vous expliquez ça en préambule ?
On l'explique et on ne travaille qu'avec des managers et des dirigeants qui sont prêts à entendre leurs équipes et à tout entendre. Voilà. Donc c'est à tout entendre sans jugement. Voilà, ça c'est très important pour nous. Oui. Donc on prépare les équipes, on prépare les managers pour ça, pour que pendant ces deux jours, tout se passe bien.
Oui, parce que cette dimension évaluation peut faire peur.
Elle peut faire peur, voilà. Donc nous, on essaye, alors bien sûr, inconsciemment, ils sont là, ils sont présents, mais on peut évaluer de façon constructive.
Parlons de vous, Marie. Vous êtes une artiste ?
Pas du tout.
Vous avez fait des études d'histoire de l'art ?
Oui, voilà. J'ai fait des études d'histoire de l'art. J'étais vraiment passionnée, je le suis encore, par l'art contemporain. C'est cette manière d'exprimer un point de vue, une idée, de pointer des dysfonctionnements, ou ce qui fonctionne aussi dans notre société, m'intéresse beaucoup. Et j'ai avant de travailler pour mon agence Perfect Lover, j'ai travaillé dans le milieu de l'art contemporain et on cherchait à approcher les entreprises. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait se nouer, sans savoir exactement quoi, au-delà du financement d'un projet artistique. Voilà, je sentais qu'au niveau humain, il pouvait se créer quelque chose. Et donc j'ai fouillé et quand je travaillais dans le milieu de l'art contemporain à Paris, au Palais de Tokyo, aux Galeries Nationales du Jeu de Paume, j'ai approché des entreprises en essayant de leur demander leurs besoins. Et ils m'ont dit, mais nous, au niveau relationnel, effectivement, ça pourrait être intéressant de passer par l'art contemporain. Et c'est là que j'ai commencé à penser des séminaires art et management, combinant les deux.
Rendre tout à fait concret quelque chose qui, au départ, est abstrait, en fait.
Exactement.
Merci Marie, vous restez avec nous. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec Marie Messina de Perfect Lovers, ou comment concilier management et art contemporain. Bonjour Pierre-Yves Révillon.
Bonjour Doris.
Un de nos référents éthiques que vous connaissez bien maintenant sur Radio Présence. Marie Messina, est à vous.
Ben, en vous écoutant, j'ai l'impression que les entreprises où vous intervenez, il y a déjà beaucoup d'éthique. Parce que se poser ce genre de questions, essayer de faire que les gens se parlent, qu'ils échangent des idées, etc., c'est quand même pas très courant.
Exactement. En fait, les managers et les dirigeants avec lesquels on travaille sont forcément des managers qui sont sensibles au bien-être de leurs équipes, nécessairement. Sinon, ils viennent pas nous chercher. C'est des gens qui ont conscience déjà des soucis qu'il peut y avoir dans leur équipe ou qu'on peut encore faire mieux dans la qualité de vie de leurs équipes et qui viennent nous voir. Donc oui, ils ont ce sens éthique. En tout cas, ils ont cette bienveillance de penser pas uniquement en termes de performance, mais de penser aussi en termes de qualité de vie des équipes.
Donc c'est a priori des entreprises qui marchent plutôt bien, où il n'y a pas de problème majeur.
C'est plus difficile pour une entreprise qui a de réels soucis de prendre le temps de réunir des équipes et de prendre ce recul. En fait, c'est les principaux freins qu'on rencontre, c'est prendre une journée, deux journées, voire plus, pour se poser les bonnes questions et peut-être pour se remettre en question au final. Donc effectivement, plus on est dans la difficulté, plus on se replie sur soi et plus on a du mal à prendre ce recul. C'est pareil dans la société, c'est pareil à titre individuel, dans une entreprise, c'est pareil. Donc c'est plus difficile de les convaincre d'y aller. Ils sentent qu'ils auraient besoin d'y aller, mais de faire le pas, c'est plus difficile. Mais
oser le faire,
se confronter à une équipe quand ça va mal et qu'on risque d'avoir des retours un peu difficiles à entendre, c'est plus difficile, mais c'est encore plus nécessaire que dans une entreprise qui fonctionne bien.
Est-ce qu'il peut y avoir des règlements de compte parfois ? Vous avez assisté à des bagarres ?
Alors, pas des bagarres, mais des tensions. Alors, on est dans le cadre professionnel, donc quand même, les gens savent où ils sont.
Oui, bien sûr. Et font
quand même attention, mais on a des tensions et il faut qu'on ait des tensions dans ces moments-là. C'est vraiment le moment où il faut lever les tensions. Donc oui, ça arrive, des claquements de porte, ça arrive.
Mais le DRH qui se lance dans une démarche comme celle-là, bon, ça veut dire qu'il a des valeurs, qu'il a de l'éthique, etc. Mais c'est pas forcément partagé par tous les gens qui sont en face de lui. Il y a des gens qui ont dans la tête des modèles de fonctionnement d'entreprise qui sont pas forcément ceux-là.
Exactement. Alors, c'est un travail qu'on mène aussi. L'idée, c'est il faut quasi que tout le comité de direction partage cette éthique et partage ses valeurs pour qu'on arrive à mobiliser les équipes, les managers là-dessus. Il m'est arrivé de travailler pour une direction bicéphale avec un manager convaincu qu'il fallait entendre les équipes, qu'elles avaient des choses à dire, qu'elles pouvaient même être très pertinentes sur l'organisation de l'entreprise, etc. Et puis son associé qui voulait rien entendre de tout ça et qui pour lui était dans un modèle managérial plus traditionnel, pyramidal, où le patron exige et les collaborateurs exécutent. Aujourd'hui, je crois que cette pyramide, elle peut être renversée dans certains contextes. Parfois, elle gagne à être renversée si tout le monde n'est pas d'accord.
Ça veut dire que vous, c'est la révolution, quoi. Et les acteurs de la révolution, normalement, c'est pas ceux-là.
C'est vrai. Mais cette révolution, elle est lente. On peut y arriver. Nous, on décide de travailler en mode colibri, petit à petit, peut-être sous forme d'une contamination positive. Et on peut y arriver parce qu'on a aujourd'hui les retours des équipes quand même qui vont bien quand elles sont entendues, écoutées, reconnues.
Et mais est-ce que vous avez eu des réactions d'opposition, des réactions du type attendez, les bisounours, c'est pas pour nous, ça.
Oui, on a exactement cette formule quasi. Les bisounours, c'est pas pour nous. On est une entreprise, on est là pour faire du profit, des résultats, et on n'est pas du tout là. C'est pas le Club Med, voilà. On
c'est
l'entend.
Ça. Ben oui.
C'est pas
sûr.
Le Club Med, voilà. Après, nous, notre rôle, c'est d'essayer de convaincre que mieux les équipes se sentent, plus elles sont efficaces, et que c'est au service de l'entreprise au final.
Et votre plus beau souvenir, Marie, parce que oui, vous devez en avoir.
Oui, le plus beau souvenir, je vais citer l'entreprise parce que ça a été très médiatisé, c'est le Poult, le travail qu'on a mené dans la biscuiterie Poult. Pour répondre à votre question, Pierre-Yves, effectivement, c'est une entreprise qui est en Midi-Pyrénées notre référence en matière d'entreprise libérée, qui a su co-construire avec l'ensemble de l'équipe de l'usine de Montauban une nouvelle manière de manager, une nouvelle manière de s'organiser. Donc, c'est une équipe qu'on a pu embarquer dans un projet ambitieux avec une artiste qui s'appelait Maëva Barrière. Et c'est vrai que c'était un des plus beaux souvenirs parce qu'on a eu des opérateurs sur chaîne, les DRH, des responsables de recherche et développement sur ce projet. Plus de 40 personnes ont travaillé sur ce projet, 70 ont été impliquées. Et cette équipe a bénéficié à l'issue du projet d'une reconnaissance nationale. Ils sont montés au ministère, ils ont été reconnus par les ministères, ils ont pu témoigner à échelle nationale. C'était très valorisant pour les équipes, à titre individuel, et puis aussi très valorisant pour le savoir-faire de l'usine.
Pierre-Yves, notre question.
C'est plus que de la communication, en fait. C'est parce qu'il y a des entreprises, enfin des consultants qui essaient de résoudre des problèmes de communication. Là, vous essayez de toucher à l'organisation de l'entreprise, à un modèle d'organisation. Vous remettez en cause quelque chose que beaucoup peut-être considèrent comme acquis, ad vitam. C'est quand même une démarche qui est à risque quand même malgré tout.
Oui, c'est une démarche qui est à risque. Après, on a la foi, on a cette foi que les équipes sont les mieux placées pour penser la manière de s'organiser. C'est-à-dire que parfois il y a un décalage de vue entre la direction, la gouvernance et ce qui se passe sur le terrain. On pense que les équipes peuvent avoir des idées. Ils vont pas forcément tout décider, mais au moins leur laisser la possibilité de s'exprimer. Oui, on y croit. On croit en cette force.
Alors je vais employer un gros mot qu'on entend beaucoup en ce moment, la disruption. Est-ce que vous faites de la disruption?
Une certaine forme, oui.
C'est-à-dire
une certaine forme de disruption, oui. C'est-à-dire que vraiment, on peut penser les choses complètement autrement. C'est sûr que d'aller chercher un modèle de réorg dans le travail de Dali, on est dans la disruption la plus totale. On voit qu'elle porte ses fruits aujourd'hui. Donc, c'est pas possible partout avec tout le monde. Voilà.
Alors c'est ça que je trouve complètement passionnant dans votre démarche, c'est justement l'irruption de l'art. Oui. Parce que là, on est dans le symbolique, vous l'avez dit. on n'utilise plus le langage verbal habituel, on est dans un autre monde. Alors comment ça se vit ça? Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont totalement hermétiques à l'art, notamment l'art contemporain.
Ouais. On est dans un autre monde, mais on est dans le monde de tous les possibles, en fait. Et c'est ce qui nous intéresse dans l'art contemporain aussi. C'est le monde où on peut tout inventer, où il n'y a pas de censure. Et ce parallèle, il est important pour nous. C'est-à-dire que l'échec n'existe pas. Un échec, c'est juste une recherche sur laquelle on peut s'appuyer et construire. Une erreur, un échec n'existe pas. Et tout ça, même si on est hostile à l'art contemporain, la démarche artistiques, ils y sont sensibles. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah ouais, tout est possible, on peut tout inventer. L'artiste part dans cette direction, il fait des liens entre des choses qui n'ont rien à voir ensemble, et ça, ça peut être intéressant, même en matière d'innovation. L'exemple que je vous donnais de Poult, aujourd'hui, on a des gens qui n'étaient pas du tout dans l'équipe recherche et développement, mais qui aujourd'hui pensent un nouveau produit parce qu'ils sont passés par ce travail artistique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est possible. Et on rebondit sur la question de l'erreur, elle est hyper importante pour nous. Il n'en existe pas, il n'y a pas d'erreur.
Est-ce que vous arrivez à lever des freins, à faire tomber des barrières sur un plan à la fois professionnel et personnel?
Alors, personnel et professionnel, tout à fait. En fait, on a rencontré des personnes très attachantes dans certaines entreprises qui nous ont dit « ça a vraiment changé notre vie ». La perception qu'avait ma femme de moi a changé. Aujourd'hui, j'ai le droit de rentrer dans la cuisine. elle me fait confiance. Ça, à titre personnel, les gens prennent confiance en eux sur certains sujets.
C'est l'objectif.
Se sentent capables d'eux. C'est complètement l'objectif. Ouais. Se sentent capables d'inventer des choses et de construire des choses auxquelles ils n'avaient pas du tout pensé en amont. Et sur le plan professionnel, on perçoit très sensiblement, et les clients nous le renvoient, une forme d'engagement qui n'existait pas avant, une envie d'y aller, une forme d'engagement, de confiance en soi et de « je suis capable de ». Et quand le « je suis capable de » se combine avec 12, 20, 100 « je suis capable de », on peut vraiment déplacer les
c'est
choses.
C'est important le mot, le terme que vous employez, la confiance en soi, je crois qu'en fait tout part de là.
Tout part de là. La confiance en soi et la confiance en les autres.
Pierre-Yves, une autre question.
C'est du développement personnel, finalement.
Une forme de développement personnel, parce qu'en fait, ça impacte à la fois l'efficacité de l'équipe et aussi, à titre personnel, l'individu qui a participé.
Mais vous pensez que ce modèle, actuellement, est généralisable ou alors c'est réservé à quelques entreprises qui sont un peu en pointe en matière d'éthique, genre Poult, etc.?
C'est complètement généralisable à condition d'avoir envie d'y consacrer un petit peu de temps. La question du temps, elle est essentielle. Il n'y a rien qui se fait comme ça avec une baguette magique. Il faut y passer du temps. C'est généralisable à condition d'avoir des dirigeants moteurs.
Ouverts,
qui ont envie d'y aller. Sinon, c'est...
Ça suppose qu'ils n'aient pas le nez dans le guidon.
Exactement. Faire un pas de recul et penser à soi et aux autres.
Mais c'est une nouvelle forme, on parlait de team building au début de cette émission, c'est une nouvelle forme de team building. Il y a quelques années, c'est vrai, on le disait, il fallait aller au front, il fallait se surpasser, il fallait faire des séminaires dans la neige, pieds nus et en caleçon. Aujourd'hui, c'est plus trop ça, on est plus dans...
C'est plus trop ça. C'est vrai que dans les années 80, beaucoup de team building était axé autour de la performance et de comment on se surpasse.
C'est ça.
Moi, je suis pas du tout favorable parce que ça met en difficulté certaines personnes quand on rentre dans l'entreprise et qu'on n'a pas voulu sauter à l'élastique. Ouais. Comment on est perçu par les autres? On est vraiment, nous, sur une modalité où tout le monde se sent bien, où on est dans une zone de confort et on peut être créatif, disruptif et inventer des nouvelles formes, même dans une zone de confort. L'idée, c'est pas de mettre mal à l'aise les gens. Et c'est vrai que je crois aujourd'hui, les entreprises d'ailleurs, font appel plutôt à des formes de team building qui ont pour objectif de souder, de créer de la convivialité et du sens.
Ouais,
ils sont en recherche d'engagement, de sens pour leurs équipes.
Perfect Lovers. Vous allez changer de nom.
Oui, on va changer de nom.
C'est le mot Lovers, hein, qui à un moment ou un autre.
Oui, l'amour était important pour nous, l'amour des managers et avec leurs collaborateurs, c'était très important. Mais aujourd'hui, comme on est vraiment axé sur la dimension collective, c'est la force du collectif qui nous intéresse. On va appeler l'entreprise Collective Pulse. Voilà, c'est la dynamique d'équipe qu'on croit être la force de l'entreprise aujourd'hui.
Voilà, une nouvelle impulsion. Vous ouais. nous donnez votre, rappelez votre site internet, Marie, s'il vous plaît.
Alors, c'est http://www.perfectlovers.fr.
Voilà, merci à vous. Merci pour votre témoignage et votre bel enthousiasme
merci.
Et votre énergie.
Merci à tous les deux.
Merci à vous, Pierre-Yves. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple. entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.